Le journal de Marceline Michon.
Bonjour. Un niveau de chômage au plus haut depuis l'été 2021 dans le Jura. Le recours à la réduction de l'horaire de travail augmente aussi. L'industrie horlogère tourne au ralenti dans la région. Décryptage dans un instant. 35 millions de francs pour la presse régionale en Suisse. Le Conseil des États a approuvé cette nouvelle aide indirecte aux journaux ce matin. Journaux régionaux et presse associative sont concernés. Paris s'apprête à vibrer et faire vibrer le monde entier. La cathédrale Notre-Dame rouvrira ses portes samedi. 5 ans après l'incendie, l'évêque d'origine jurassienne Gérard Daucourt témoigne dans ce journal. Malgré l'augmentation de la couverture nuageuse, le temps devrait rester sec cet après-midi. Maximum 5 degrés dans la région. Les averses arriveront cette nuit et seront fréquentes demain matin. Le ralentissement du marché horloger se confirme dans les chiffres du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi est en nette hausse dans le Jura sur le mois de novembre. 140 de plus qu'en octobre, dont 130 chômeurs. Le taux de chômage augmente ainsi de 0,4 points pour s'établir à 4,7% dans le Jura. Le plus haut niveau depuis juillet 2021. De plus en plus d'entreprises recourent à la RHT ces derniers mois. 74 actuellement, chiffre là aussi en hausse. Un ralentissement économique qui s'étale et qui dure. Gilles Coulry, chef de projet à l'observation et mesure du marché du travail au service de l'économie et de l'emploi, fait ce constat depuis près d'un an et demi.
Depuis août 2023, on remarque une augmentation constante du nombre de demandeurs d'emploi et de chômeurs dans le canton du Jura. Et puis là, à la fin du mois de novembre, on a vraiment une poussée importante avec une augmentation de 0,4 points par rapport à la situation qu'on avait à la fin du mois d'octobre. C'est pratiquement essentiellement les entreprises qui travaillent dans l'horlogerie de manière directe ou indirecte. Si on prend un certain nombre de fabricants de machines, par exemple, qui peuvent aussi être touchés dans la mesure où les machines qu'elles fabriquent, c'est pas essentiellement, mais beaucoup pour l'horlogerie. Il y a aussi ce qui concerne la réduction d'horaire de travail. On a une poussée d'environ 15 entreprises qui sont venues s'inscrire en plus de ce qu'on avait. Je reprends le mois d'août 2023, où on avait une entreprise qui avait demandé l'aide de la RHT. Et puis aujourd'hui, on en a 74. Ces 74, c'est les entreprises qui ont fait une demande, elles sont susceptibles de chômer. Après, on verra, quand elles auront fait un décompte auprès de la caisse de chômage, là, elles ont 3 mois pour le faire. On verra un petit peu l'évolution d'ici le début de l'année. On peut penser qu'en général, on a toujours entre un tiers à la moitié des entreprises qui font quand même appel.
Ralentissement qui devrait encore s'étaler sur le début d'année prochaine, selon Gilles Coulry. Au niveau suisse, les économistes de la banque Raiffeisen prévoient une légère embellie l'année prochaine. Le taux de chômage national n'a augmenté que de 0,1 point pour s'établir à 2,6%. Les restaurants des écoles jurassiennes post-obligatoires seront désormais gérés de manière harmonisée. L'État annonce aujourd'hui qu'il a décidé d'étendre la phase pilote menée depuis l'été 2023. Un cahier des charges avec l'objectif de minimum 50% de produits régionaux et 25% de bio sera ainsi imposé aux cantines. La Fondation Rurale Interjurassienne a participé au pilotage du test et gère les restaurants des écoles de Les Montaines. Pour son directeur, le bilan de la phase pilote est satisfaisant, même s'il faut de la patience pour parvenir aux différentes exigences. Olivier Girardin.
Ça prend du temps. Le point important aussi, c'est la collaboration avec les producteurs. Donc là, on a travaillé étroitement avec des groupements de producteurs, en lien aussi avec Biojura, des producteurs de légumes, producteurs de viande. Et puis le point, c'était de mettre en relation les cuisiniers en fait, avec ces producteurs pour pouvoir augmenter en fait, cette part de produits régionaux et bio dans la restauration.
Cet objectif, justement, 50% minimum de produits régionaux, 25% de bio, c'est difficile à l'atteindre ou vous avez réussi pendant ce projet pilote?
On y est, je dirais, au niveau de la Fondation Rurale, on a atteint l'objectif. Au niveau des autres restaurants, on est en chemin, on n'est encore pas au bout. Mais oui, par contre, on a une évolution. On est peut-être à mi-chemin à peu près de l'objectif. Parce que justement, ça prend du temps. Voilà, il faut tenir compte aussi de la réalité de chaque restaurant. Mais on voit que, en tout cas, c'est possible d'augmenter la part. Mais ça nécessite de l'organisation. Il faut une bonne coordination justement entre les cuisiniers et puis aussi avec les producteurs.
Des propos recueillis par Alexandre Rosset, le canton a lancé un nouvel appel d'offres au terme de la phase pilote pour la gestion des cantines scolaires. La Free restera en charge des restaurants de Les Montains alors que le lycée sera toujours géré par SF Gourmet SARL et la division technique par Eldora SA. Attirer des familles, le défi de nombreuses communes jurassiennes. Pour y parvenir, il faut notamment proposer des solutions de logement attractives. À Failly, par exemple, il n'y a plus de terrain à bâtir sur le territoire communal et les maisons à vendre dans le centre ancien sont compliquées à rénover. La commune Ajoulotte va donc présenter un projet original lundi lors de la prochaine assemblée communale. Présentation avec Nancy Chapuis.
La solution a failli, c'est le départ des gardes-frontières. L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ne loge plus son personnel dans ses propres bâtiments et ainsi quatre maisons mitoyennes sont vides depuis 5 ans. Ces logements, rénovés dernièrement, se trouvent dans le quartier résidentiel de la Combatte. 3 chambres à coucher, des places de parking, un garage, des extérieurs, de quoi séduire des familles, alors que la commune a l'un des pourcentages les plus élevés de personnes de plus de 65 ans de tout le canton, le maire de Failly, Philippe Christina.
Alors nous, on a besoin de loger du monde. On cherche à retrouver des jeunes qui viennent dans le village. Jusqu'à maintenant, le village vieillit. Malheureusement, les jeunes partent parce qu'ils ne trouvent pas de logement sur place. Les maisons sont vieilles. Et puis, on n'a plus la possibilité de construire ailleurs. Donc, ces quatre maisons sont les bienvenues pour pouvoir accueillir des nouvelles familles avec des enfants, si possible. Ce n'est pas le but de faire une affaire financière, mais c'est surtout le but d'avoir des jeunes qui viennent et puis renouveler la population. Voilà. Nous, on ne cherche pas à faire des affaires financières, on cherche à ne pas perdre d'argent.
La commune, qui a un droit de préemption sur ces quatre maisons mitoyennes, a convenu avec la Confédération d'un prix de 800 000 francs, sans compter les frais notariés. Le maire précise encore que cet achat ne va pas peser sur les finances communales, qui ne sont pas au beau fixe, puisque Failly va ainsi augmenter son patrimoine financier.
Le crédit de 825 000 francs sera présenté en assemblée communale lundi à Failly dans le cadre des investissements prévus l'année prochaine. À Bure, la réglementation du trafic local va drastiquement changer selon le journal officiel du jour. La commune Ajoulotte a déposé les plans pour modifier sa signalisation routière. La vitesse maximale passera à 30 km/h sur toutes les routes communales ainsi que dans les secteurs agricoles des Bornes et du Paradis. Ces changements entreront en vigueur au printemps prochain selon le maire Michel Vallée. Là, les 50 km/h resteront de mise sur les 2 routes cantonales qui traversent le village. Et toujours en Ajoie, la place de loisirs de la forêt des petits chemins à Halles sera aménagée pour devenir encore plus ludique. La commune a déposé une demande de permis de construire selon le journal officiel. Les installations qui datent de 2002 sont devenues vétustes selon la conseillère communale en charge du dossier Agnès Savary-Moiranda. Elles seront remplacées et assainies. De nouveaux éléments seront installés. Les travaux devraient s'achever ce printemps. Le Conseil national a approuvé ce matin le budget 2025 de la Confédération. Il a augmenté les dépenses de l'armée et épargné l'agriculture, au prix notamment de lourdes coupes dans la coopération internationale. Des coupes qui ont poussé la gauche et les Verts libéraux à rejeter le budget. Les députés ont finalement adopté ce budget par 120 voix contre 73. Le Conseil des États débattra lundi. 35 millions de francs supplémentaires pour la presse régionale. Le Conseil des États a largement approuvé ce matin une adaptation des montants de l'aide indirecte aux journaux. Malgré le refus par le peuple du paquet d'aide aux médias, il est important de soutenir la presse locale et régionale, estime le sénateur socialiste Baptiste Turnier.
Quand ce paquet de soutien à la presse a été refusé par le peuple, ces mesures-là de soutien indirect à la presse régionale n'étaient absolument pas contestées. Et les opposants et les gens qui étaient pour disaient que c'était absolument nécessaire. C'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est évidemment que la situation de la presse écrite s'est énormément détériorée ces dernières années. On est passé de 2 milliards de recettes publicitaires il y a une vingtaine d'années à peine 500 millions. Donc la presse est soumise à une pression énorme, elle doit se réformer, mais simplement ça va tellement vite que si on ne lui donne pas un peu ce ballon d'air pour respirer, eh bien simplement elle va mourir.
Ces 35 millions de francs supplémentaires permettront d'offrir un rabais pour la distribution des journaux régionaux et de la presse associative. Un montant en particulier a été réservé à la distribution matinale. Les précisions de Marianne Marais, sénatrice du Centre.
Parce qu'aujourd'hui, on a une discrépance, c'est-à-dire qu'il y a un rabais sur la distribution des journaux, pour autant que cette distribution soit assumée par la Poste. Mais par contre, chaque fois que les entreprises, les journaux, distribuent via des systèmes de privé de messagerie, il n'y a pas de rabais. Et ça nous paraissait être incorrect. Et il y a une majorité de notre chambre qui a décidé de corriger cette discrépance. Parce que si on veut soutenir la distribution des journaux, on doit la soutenir quel que soit le messager qui apporte le journal.
Les deux chambres ont approuvé le principe d'une aide indirecte supplémentaire à la presse régionale. Elles doivent encore se mettre d'accord sur les montants exacts. Le dossier repasse au Conseil national. Autre actualité médiatique, le tribunal administratif fédéral accepte partiellement le recours de Télébilingue en raison de lacunes dans la procédure d'évaluation, décision annoncée ce matin. Ce recours concerne le retrait de la concession de la chaîne du groupe Gassman au profit de celle de Canal Alpha pour la région de Bienne. Les deux dossiers vont maintenant retourner au département fédéral de la communication. Il examinera quel candidat enrichit le plus la diversité des opinions et des offres. L'exploitation de la centrale nucléaire argovienne de Betznao sera prolongée jusqu'en 2033. L'énergéticien Axpol annonce aujourd'hui une décision prise en accord avec l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire. La firme de Baden injectera encore 350 millions de francs dans la plus vieille centrale nucléaire du monde. L'infrastructure produit de l'énergie pour 1 300 000 ménages. On passe à l'actualité à l'étranger. Le Premier ministre français Michel Barnier s'est rendu ce matin à l'Élysée pour remettre la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron. Conséquence de la décision hier de l'Assemblée nationale française qui a voté une motion de censure. Emmanuel Macron qui s'adressera aux Français ce soir à 20h. Dans ce contexte politique chamboulé, la capitale française s'apprête à accueillir un événement mondial. Ce samedi, Notre-Dame de Paris va rouvrir ses portes 5 ans après l'incendie dont elle a été la proie. L'évêque émérite de Nanterre, Gérard Daucourt, se réjouit de constater que la cathédrale a été reconstruite pour être encore plus belle qu'avant. Le jurassien d'origine estime que Notre-Dame symbolise Paris au même titre que la Tour Eiffel et que le monde entier lui est ainsi attaché. La cérémonie officielle de réouverture se tiendra donc après-demain en présence d'une cinquantaine de chefs d'État, mais sans le pape François qui a choisi de ne pas y participer. Gérard Daucourt comprend cette absence.
Je ne le regrette pas du tout. Le pape est un homme libre et je pense, il ne m'a rien dit, hein, il ne me téléphone pas tous les jours, figurez-vous. Mais le pape a certainement choisi ça parce que c'est la cathédrale. Et il ne veut pas voler la vedette à cette cathédrale. Qu'est-ce qu'on aurait fait si le pape venait? Ben, tout ce qui comptait, c'est la visite du pape, l'organisation incroyable, le pape vient. Et finalement, ben oui, c'est pour Notre-Dame. Mais non, là, c'est la cathédrale qu'on restaure avec tout ce que ça signifie pour les Français. Le pape, 15 jours après, il vient en Corse. Et la Corse, c'est la France. Alors, ça veut dire qu'il reste libre là-dessus, si vous voulez. Alors, évidemment, pour M. Macron, qu'il a déjà invité plusieurs fois, il est très déçu. Il y a certains aussi des catholiques français, parmi eux des évêques, qu'il regrette. Moi, je ne le regrette pas du tout, parce que chaque chose a sa place et parce que j'admire notre pape pour sa liberté.
Notre-Dame de Paris qui ouvrira ses portes ce samedi. La flèche a été en partie reconstruite avec du bois scié dans le Jura. C'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Merci pour votre écoute et votre fidélité.